Nous allons reprendre avec les questions. Christine, je rouvre ta ligne.
Oui.
Voilà, te revoilà.
Je suis en train de découvrir le chat et je vois les histoires du chien, effectivement.
Oui, au début on avait un chien avec nous. Alors, qu'est-ce que tu vois dans le...
Alors, qu'est-ce que je vois? Valérie m'a gentiment sélectionné un certain nombre de questions. Je vais commencer par une rapide. Margaret qui dit « Quand on travaille pour une tierce personne, doit-on parler pour elle ou utiliser la première personne comme d'habitude ?» Et merci Margaret de dire que la conférence vous a beaucoup apporté. Je dirais que ça dépend comment vous le sentez. La première chose à faire, c'est de vérifier comment vous vous sentez, vous, par rapport au problème de cette personne. Parce que, mettons que s'il s'agisse de votre enfance, je ne sais pas quel est le cas, hein, mais s'il s'agit de votre enfant, il y a une autre question d'ailleurs qui parle d'un enfant autiste qui fait des tests afin d'être diagnostiqué. Est-ce que la maman peut faire ses rondes EFT? Donc, je vais répondre aux deux d'un coup. Si la maman se sent très angoissée par rapport aux tests que suit l'enfant, à ce moment-là, je suggérerais que la maman commence par tapoter pour ses propres angoisses à la première personne, donc, en se concentrant uniquement sur elle-même. Une fois qu'elle se sent parfaitement à l'aise, Margaret, une fois que vous vous sentez parfaitement à l'aise par rapport à la situation, et que vous êtes vraiment, on dit en anglais, hors du chemin en fait, vous êtes complètement séparé du problème, vous pouvez soit imaginer que vous êtes l'autre personne et dire, on va reprendre le cas de l'enfant, même si je suis terrifiée par tous ces gens autour de moi et que je ne sais pas quoi leur dire ou je ne sais pas comment communiquer, je suis une gentille fille ou un gentil garçon, selon l'âge. Ou vous pouvez, si vous vous sentez plus à l'aise, dire, même si cette personne est très malheureuse dans cette situation, et essayer de sentir s'il s'agit de quel sentiment il s'agit. Soit vous pouvez avoir un dialogue avec la personne et ça aide, soit vous ne pouvez pas, et là c'est à vous de vous mettre à la place de cette personne. Et là, vous travaillez à la troisième personne. J'espère que ça répond. Il y a une autre question qui est de Archange 07. Après le diagnostic, la maladie et la détresse de l'entourage. Absolument. L'EFT, à ce moment, peut-il enrayer le choc survenu 4 années plus tôt? Absolument oui. Non seulement pour la personne, mais pour l'entourage, quelle que soit la situation 4 ans plus tard. On a dit que pour le choc du diagnostic lui-même, c'est-à-dire l'instant où on reçoit le diagnostic, on peut le revoir en arrière avec le matrix reimprinting, mais c'est valable pour la personne qui l'a reçu et pour les personnes qui l'ont reçu par effet secondaire. Donc chacun peut y travailler de son côté. Quand c'est une famille par exemple qui est relativement soudée, je vous conseillerais très fortement d'essayer de travailler ensemble dessus, avec l'aide d'un praticien ou d'une praticienne. Mais parfois, en travaillant ensemble, on a plus d'énergie, en fait, et on va plus vite. Particulièrement dans ce cas-là, je repense au cas d'une famille qui travaillait sur un jeune, qui avait des problèmes de drogue, et ils y ont travaillé tous ensemble. Et ça a donné des résultats magnifiques.
Ouais, c'est ça. Quand c'est possible, oui, si vous pouvez travailler avec vos proches d'équipe au moment de ce diagnostic qui effectivement concerne beaucoup plus de personnes que vous-même, bien sûr, faites-le.
Oui. Alors Nita, qui a reçu le diagnostic du cancer du sein il y a 4 ans, qui ne connaissait pas l'EFT à ce moment-là, c'est pas grave, c'était pas disponible, mais ça l'est maintenant. Donc manifestement, vous êtes toujours là. Et en continuant à travailler sur ces rondes, vous allez petit à petit pouvoir éliminer tout ce qui est en dessous. Vous dites que vous avez éclaté en sanglots à ce moment-là. C'est ce que je disais quand on disait parfois c'est pire. C'est bien parce que ça vous montre que vous avez pu faire sortir quelque chose qui a priori était peut-être caché. tous ces sentiments qui sont à l'intérieur de nous et qui sont cachés mangent notre énergie. Et alors peut-être que vous n'y pensez pas tous les jours, vous continuez votre vie, etc. Mais derrière, votre énergie est quand même diminuée et ça vous est beaucoup plus difficile de continuer à vivre normalement et de reprendre une vie complète et en plénitude.
Oui, ça fait toujours du bien, même si la maladie n'est plus là. Heureusement que tout s'est bien passé. On peut toujours retourner et guérir ce moment du choc, que ce soit un choc de diagnostic ou autre. Hein. Et ça fait partie des dimensions tellement riches de l'EFT. On peut retourner guérir des situations dans le passé.
Absolument. Il y a un peu beaucoup de questions. Je ne sais pas combien j'ai de temps.
On peut rester encore 5 minutes, il faut qu'on libère la salle pour 20h30, en effet.
C'est bien ce qu'il semblait.
Mais je vois des questions pour le tapotage par procuration, c'est-à-dire moi je tapote pour une personne qui n'est pas présente et qui n'est pas au courant et qui n'a peut-être pas envie. Est-ce que tu peux redire quelques mots là-dessus? Ça a été traité dans d'autres conférences, mais ça revient souvent. Comme Moïbab, par exemple, qui dit « puis-je tapoter pour ma sœur ?» J'ai peur de changer, en le faisant, de changer son comportement, donc de donner des résultats meilleurs de ses analyses, de fausser les analyses en quelque sorte. Est-ce qu'il y a un risque de ça, Christine?
De rendre meilleures les analyses, je n'ai pas vu le... Ah oui, ça y est, je l'ai. Oui. Quel est le risque de rendre meilleures ses analyses? Est-ce que votre objectif, c'est qu'elle y croit? Ou est-ce que votre objectif, c'est de l'aider à aller mieux? En sachant que nous sommes chacun responsables de notre vie, et quand vous voulez tapoter pour votre sœur, qu'est-ce que ça déclenche en vous que votre sœur soit très malade? Est-ce que vous pouvez déjà tapoter sur cette inquiétude, cette tristesse, cette peur que vous avez en vous par rapport à votre sœur? Déjà en faisant ça, vous dites qu'elle n'y croit pas du tout, mais elle vous connaît a priori bien. Si vous arrivez vous-même à vous détendre et à vous sentir mieux avec la situation, ça va peut-être lui mettre un peu la puce à l'oreille. Et à un moment, elle va peut-être se dire « je veux bien une part du gâteau ». Et petit à petit, elle y viendra peut-être elle-même. Ça, c'est un aspect de la chose. L'autre aspect, c'est qu'une fois que vous êtes vous-même parfaitement en paix avec les situations, vous allez être beaucoup plus facilement inspiré sur la meilleure manière de tapoter pour votre sœur. Et puis, si vous donnez des résultats meilleurs pour ces analyses, c'est bien pour tout le monde. Ça ne veut pas dire qu'après ça, elle est complètement sortie, elle a encore du travail à faire de son côté. Mais vous ne pouvez pas faire ce travail à sa place. Et vous pouvez au moins l'aider à avancer.
Oui, tout à fait. Mais ça ne risque pas non plus, enfin, à mon sens, ça ne risque pas de faire un coup de mieux qui disparaîtrait après. Si ça améliore les résultats des analyses, c'est que vraiment, il y a quelque chose qui s'est amélioré.
Absolument, absolument. On parlait pendant la conférence du fait qu'il faut être très honnête par rapport à l'EFT. Dans la mesure où vous arrivez à obtenir un résultat qui se concrétise dans les analyses, c'est que vraiment, il y a quelque chose qui a bougé.
Alors, je vois plusieurs personnes qui disent que cette conférence et les tapotements ont réveillé des choses en eux et qui ne sont peut-être pas forcément bien. Continuez à tapoter. Continuez à tapoter sur les points, sur les doigts, sur tous les points, tout en écoutant.
Respirez aussi.
Voilà, et ça montre bien l'importance dans ce genre de cas de se faire accompagner éventuellement.
Oui. Quand c'est exactement le cas dont on parlait en milieu de conférence. Quand les choses empirent, c'est qu'il y a autre chose derrière. Donc continuez simplement à tapoter en respirant, en vous concentrant sur l'instant présent. Buvez, levez-vous, marchez, faites quelques pas si vous le pouvez. Et peut-être laissez l'EFT de côté pour le moment et faites-vous aider pour aller de l'avant. Ou si vous retombez à un moment où vous vous sentez suffisamment en force, continuer, mais en sachant cette fois qu'il y a quelque chose derrière et que ça peut être difficile de passer. Ça ne veut pas dire impossible, mais ça peut être difficile. Je vois aussi pas mal de commentaires qui parlent de retravailler un diagnostic qui est passé depuis longtemps. Absolument, on n'insistera jamais assez, en particulier comme dans le cas de Positive avec qui est maintenant pour l'instant dans un fauteuil roulant. C'est pas forcément, on a le cas de Marie-Louise là qui est évident, oui. C'est pas forcément la fin, c'est une étape. Donc oui, l'alimentation, comme vous mentionnez dans votre texte, et les autres choses, tout ça, c'est tout dans la bonne direction. Si vous regardez la conférence de David Servan-Schreiber, il y a un point que j'aime beaucoup, qu'il fait. Il y a des études qui montrent que pour les malades du cancer qui surveillent leur alimentation, il y a une amélioration au début, mais finalement la mortalité est la même. Pour ceux qui font plus de sport, il y a une amélioration au début, mais finalement la mortalité est la même. Pour ceux, je crois, qui font de la méditation, je ne sais plus, c'est la même chose. Par contre, quand ils font les trois ensemble, là, ça change complètement la donne. Et comme il dit dans sa conférence, pour la plupart des traitements allopathiques, prenez la tuberculose ou prenez le sida, on fonctionne avec trois médicaments ou plus. Ben là, c'est pareil. L'EFT va vous aider dans une direction, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas regarder votre alimentation, votre sport et tout le reste.
Bien sûr. Alors, on va arrondir avec une dernière question. Gramelli, mon ami ressasse toujours la même chose et me remplit la tête avec beaucoup de nouvelles négatives. Je lui demande d'arrêter. Que puis-je faire pour l'aider?
Alors, la première chose, c'est d'arrêter de lui demander d'arrêter. Parce oui. que manifestement, ça ne marche pas.
Voilà. Bon, essayons autre chose.
Essayons autre chose, voilà. Comme dit Einstein, la folie consiste à faire la même chose encore et encore et à attendre un résultat différent.
Oui. Et peut-être que la première question, Grémelli, à vous poser, c'est que puis-je faire pour m'aider? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous voilà. pour aller mieux dans cette situation? Même si lui ne change pas, comment est-ce que vous pouvez vous sentir bien?
Alors, la première chose que je dirais, c'est déjà de tapoter sur vos propres réactions par rapport à tout ce qu'il dit. Même si ça m'énerve prodigieusement quand il me dit ça, je choisis d'être calme.
Même si j'aurais envie qu'il arrête?
Même si j'ai envie de m'énerver très fortement, et puis allez-y avec les gros mots si ça vous fait du bien, je choisis de me sentir bien dans l'instant et dans mon corps, parce que c'est ma santé. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, on n'a pas le temps d'en parler, j'ai conscience, mais l'Oponopono à explorer d'urgence dans ce cas-là.
Ah oui, ça, faites des recherches sur Internet si vous ne connaissez pas encore, c'est un principe très très simple.
J'ai aussi plusieurs articles sur ce sujet sur mon site.
Oui, et puis la première approche, c'est un résumé tout à fait vulgaire que je vais faire, mais c'est juste de répéter les mots « merci, pardon, je t'aime, je suis désolée ». En pensant à cette situation. Voilà.
Voilà. Ce qui n'est pas du tout facile à faire au début, parce qu'on a dans l'idée que le négatif, c'est la personne en face, ce n'est pas nous. Donc, on ne voit pas pourquoi on s'excuserait, n'est-ce pas? Oui. Mais en faisant un tout petit effort au début, ça amène des résultats assez intéressants, on va dire.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais merci beaucoup, Christine, d'avoir pris ce temps avec nous.
Merci de rien. Je vais essayer de répondre à quelques-uns des chats.
Oui, on va laisser le chat ouvert encore 5-10 minutes. Tu peux rester là pour répondre aux questions, mais je dois couper le son dans la salle. Et je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 21h pour la conférence Le bonheur au bout des doigts. Ça sera la suite logique avec Caroline Bachot. Donc, et si vous vous sentez mal suite à cette conférence, continuez à tapoter. Faites-vous du bien, prenez soin de vous et surtout revenez tout à l'heure, ça va vous faire du bien aussi.
Absolument, oui, d'autant plus, oui, parfaitement.
Merci Christine.
Merci à toi.
C'était un enregistrement du congrès virtuel francophone de EFT. Pour en savoir plus sur cet événement annuel, rendez-vous sur le site www.lecongrèseft.com. À très bientôt.